de Carnin, rappelons que vous êtes chef du service prospective et de soutien aux acteurs culturels, et vous êtes également le programmateur du centre départemental de Resto, qui propose 11 rendez-vous. Alors, 11 rendez-vous en dehors des rendez-vous jeunes publics, parce qu'il y a aussi des rendez-vous autour de la jeunesse, on en parlera un petit peu plus tard. Est-ce qu'on peut dire que cette programmation, elle est un peu liée au fait que vous proposiez un soutien aux acteurs culturels du département et de la région ?
Oui, oui, bien sûr, c'est tout à fait lié. En fait, cette salle, la Resto, elle a pour vocation, évidemment, de proposer des spectacles pluridisciplinaires, variés, avec des artistes qui viennent de la France entière, mais aussi des artistes vauclusiens ou régionaux, qui sont des artistes parfois émergents, comme on dit, qui sont des artistes à découvrir, ou qui sont des artistes qui ont déjà un certain rayonnement avec une notoriété nationale. C'est d'ailleurs le cas de l'artiste qui fera l'ouverture de la saison, puisqu'il s'agit d'Emma Domas, en fait, une chanteuse, une musicienne, une compositrice, un auteur ou une autrice, maintenant, bien connue au plan national, oui.
On la connaît comme chanteuse de variété d'une certaine manière, mais avec l'art des naufrages, elle mêle le chant, le théâtre, et pour parler de concert théâtralisé, l'art des naufrages.
Oui, absolument, c'est un concert théâtralisé dans lequel finalement Emma Domas montre toute l'étendue de son talent en tant qu'autrice, interprète, compositrice, et elle nous propose là, donc, dans une version théâtralisée d'un spectacle, tiré d'une sorte d'album concept en fait. L'album, c'est l'art des naufrages. Vraiment, elle nous montre toute l'étendue de son talent. Enfin, elle propose des chansons pop, des chansons profondes, subtil. En fait, finalement, on s'aperçoit que c'est une autrice de chansons françaises un peu à texte, comme on pourrait dire, mais inscrite dans un registre artistique qui est un peu pop, qui est très accessible. C'est ce qui rend les choses intéressantes à mon sens, c'est que sur le plan musical, on a quelque chose avec des tubes potentiels et puis une richesse, une subtilité, une sensibilité d'écriture qui est, à mon avis, très intéressante aujourd'hui.
Ce sera l'ouverture de l'Art des naufrages le 14 octobre à Resto. Et il y a un autre talent, alors beaucoup plus âgé, hein, qui est aussi connu nationalement comme Emma Domas, c'est même un acteur de légende. C'est le Café de la Gare, c'est un attendant Godot dans la cour d'honneur du Palais des Papes, c'est Rufus, citoyen de Roussillon. Mais alors Rufus, là aussi, il va venir avec une proposition assez particulière, assez atypique.
Oui, alors Rufus, à l'initiative de Pascal Charrier, en fait, c'est pas un spectacle de Rufus que nous proposons. Rufus va en être le conteur, le narrateur. En fait, il a été sollicité par Pascal Charrier, qui est un guitariste, compositeur de jazz, qui est installé à Apt aujourd'hui et qui a rencontré Rufus. De là, une complicité, une amitié artistique est née. Ils ont décidé de s'associer pour un spectacle qui s'appelle La Petite Montagne et la Mer, qui est une sorte de conte philosophique écrit et composé par Pascal Charrier, qui va parler de la jeunesse de Pascal Charrier, de son enfance entre Montagne de Lure et surtout Montagne du Luberon. Et c'est Rufus qui prête sa voix à Pascal Charrier pour ce spectacle, en fait, écrit de manière très poétique, façon haïku, un peu Pascal Charrier. Et donc là aussi, c'est un spectacle à découvrir pour avoir le plaisir de voir Pascal Charrier et Rufus ensemble sur scène au plateau.
Il y a quand même une dominante musicale dans votre programmation, hein, puisqu'il y a Pascal Charrier, puis on aura un peu plus loin Louis Gunner, Alice Pierrot, et puis également Yardani Torres Mayani.
Grand violiniste qui maîtrise à la fois le registre classique et puis le registre flamenco gitan, qu'il a appris finalement de manière spontanée dans le cadre de son histoire familiale, je crois, et puis c'est aussi un virtuose du classique, donc il sera en compagnie d'un autre grand violoniste et d'un danseur. Et vous le soulignez, donc on a une programmation qui est à la dominante musicale. Alors nous n'avons pas que des concerts, hein. Il y a aussi du théâtre musicalisé ou de la musique théâtralisée, on peut le prendre dans les deux sens, c'est comme on veut. Mais il y a toujours un peu de musique. David Lafort, qui est un musicien qui est maintenant implanté et installé à Avignon, bien connu des Avignonnais, mais aussi au plan national, hein. Et d'ailleurs, son dernier album, La tête contre les murs, a été coup de cœur de l'Académie Charles Cros cette année. Ça avait d'ailleurs été le cas l'an dernier pour l'art des naufrages, hein, de Emma Domas, qui était également coup de cœur de l'Académie Charles Cros. Donc je crois que c'est quand même un gage de qualité de l'écriture, autant musicale que textuelle. Donc David Lafort vient à Resto dans la version dite « boum boum » de son concert. Alors « boum boum » tout simplement parce qu'on connaît David Lafort avec sa guitare acoustique, et là en fait il est dans une version duo. David Lafort joue de la guitare électrique, il est accompagné par un batteur de jazz aussi assez émérite, hein, en la personne de Gilda Etévenard. Et donc cette version qu'il qualifie de « boum boum », enfin elle n'est pas tant « boum boum » que ça finalement, hein. Elle est en construction, mais c'est une version dans laquelle on entend David Lafort jouer en utilisant des registres, des genres musicaux très différents. Ça va du funk en passant par des sonorités rythmiques très rock'n'roll et puis aussi des sonorités plus africaines avec un peu des gimmicks guitare de rumba, rumba un peu congolaise. Donc c'est très intéressant, je crois.
Il va y avoir un rendez-vous assez exceptionnel, un rendez-vous qui a un titre difficilement prononçable, « A Birdcage Played with Toasting Forks ». C'est la définition du clavecin, je crois, donnée par un musicien anglais. C'est un rendez-vous qui rassemble à la fois deux artistes et deux lieux, c'est-à-dire qu'il y a Loïc Guenin, qui est l'âme du milieu, à Sceaux, qui est vraiment un centre à la pointe de la musique d'aujourd'hui. Et puis Alice Pierrot, qui est la co-créatrice de la Courroie, qui est aussi une altiste exceptionnelle d'ailleurs, et qui est à l'origine de la Courroie, qui est un lieu où on privilégie souvent la musique ancienne. Et ensemble, donc, Loïc et Alice, ils ont réussi à faire un spectacle.
Oui, c'est un spectacle dont Loïc Guénin est à l'initiative, à l'origine. Il s'est associé avec Alice Pierrot pour ce spectacle qui s'appelle La Trotteuse. C'est un spectacle qui est en cours de création. Je crois qu'ils étaient en résidence à Marseille il y a encore peu. Évidemment, cette soirée avec ces deux spectacles qui mélangent finalement musique contemporaine et musique baroque quasiment, c'est quelque chose qui va être exceptionnel et qui est une programmation, je crois, assez audacieuse et assez ambitieuse sur le plan artistique. Et c'est aussi une programmation qui rassemble, vous disiez, deux lieux, mais en réalité, elles rassemblent trois lieux, puisque c'est au centre départemental de Rastoul, l'association de deux artistes vauclusiens, Loïc Guénin, qui est basé à Sceaux, en effet, Alice Pierrot, qui est finalement l'âme de la courroie, comme les instruments de musique ont une âme, finalement. On va avoir le milieu à Sceaux, la courroie Entraigues, Loïc Guénin et Alice Pierrot, rassemblés à Rastoul, qui est une scène départementale, une scène du conseil départemental, donc je suis très fier de cette programmation. La première partie de soirée, donc, c'est cette pièce qui s'appelle « Birdcage Played with Trotting Folks », une définition un peu sarcastique ou ironique de la sonorité du clavecin, et c'est bien dans ce sens-là qu'il faut le prendre.
Une cage à oiseaux jouée avec des pinces à rôtir, en fait.
Absolument, absolument. Et donc c'est aussi un titre qui fait référence à John Cage, puisque on va avoir dans ce spectacle des reprises de John Cage et des compositions de Loïc Guénin. Loïc Guénin donc va travailler les sons du clavecin avec un système électro, avec du numérique, et il va aussi jouer lui-même du piano, du toy piano, qui est un petit piano en fait, et qui va être en contrepoint finalement du clavecin. Et au clavecin, on aura Bertrand Cuiller, qui est un claveciniste internationalement connu. Je voudrais pas divulguer, mais je crois que progressivement à la fin du spectacle, finalement, le travail électro-numérique de Loïc va faire en sorte que les machines vont prendre le pouvoir sur le clavecin et le clavecin va devenir quasiment autonome. Voilà. Le deuxième spectacle, c'est La Trotteuse, qui dure une heure, qui va représenter les 12 mois de l'année 2020, qui sont les mois, évidemment, ça vous a pas échappé, donc les 12 mois de confinement liés au Covid. Et donc les deux artistes vont raconter en musique leur année de Covid, leur année de confinement, en illustrant à travers un choix de composition, qui part de Couperin en allant jusqu'à Bach, quels étaient leurs états d'âme pendant ces années de confinement, avec une sorte de petit paradoxe, c'est qu'ils étaient finalement d'une certaine manière assez heureux d'être confinés parce que ça leur a permis de retrouver un rythme de vie différent. Ce sont des gens qui ont des agendas très très remplis, un ou deux ans à l'avance. Et puis en même temps, leur souhait, leur volonté finalement de retrouver la scène au plus vite et de retrouver le public. Et finalement, ils ont allié ces deux sentiments contradictoires avec ce projet puisqu'ils racontent finalement leurs états d'âme et leur confinement tout en le proposant au public.
Alors donc, il y a des talents tout à fait confirmés qui vont venir à Rastoul parce que ce sont des gens aussi qui vivent dans le Vaucluse. Puis il y a aussi des talents émergents, je pense notamment à la chorégraphe Carole Borde ou encore à Charlotte Adrien qui est connue comme actrice. Mais c'est aussi une chanteuse et là, elle va venir proposer Turbulence qui est un spectacle qu'elle a vraiment conçu. Donc c'est aussi une manière de mettre en avant des beaux talents émergents d'une certaine manière.
Effectivement, ça correspond aussi aux missions du service dont j'ai la charge ici, qui est un service de soutien aux acteurs culturels. Et quand on peut soutenir les... Alors, je préfère dire les talents à découvrir plutôt qu'émergents, mais quand on peut soutenir les talents à découvrir quand ils sont des talents départementaux régionaux, on les fait évidemment bien volontiers. C'est le cas de Charlotte Adrien, dont vous avez parlé, avec le spectacle Turbulence, qui est une pièce de théâtre dont j'ai eu la chance de voir une première partie lors d'une sortie de résidence au Carme, et j'avais été très séduit par ce projet qui semblait très intéressant. Et là aussi, Charlotte Adrien donc, va montrer finalement l'étendue de son talent, puisqu'elle y est à la fois interprète comédienne, elle chante, elle joue de la musique, et elle a écrit le texte et elle en assure en partie la mise en scène, épaulée, je crois, sur les questions de mise en scène par Nolwenn Ledotte, qui est aussi une artiste avignonnaise. Et je crois que ce spectacle Turbulence va être très enjoué, très vivant et en même temps caustique. C'est un spectacle, je crois, assez humoristique et en même temps est assez déjanté aussi, puisque l'argument ou le pitch, comme on dit aujourd'hui, pour le dire vite, c'est une émission de radio, une matinale sur une grande radio type France Inter ou France Culture. Il se trouve que l'animateur est absent et la régie va demander au pied levé à l'artiste, la jeune chanteuse qui est invitée, d'animer l'émission. Et évidemment, c'est pas son métier et ça va complètement dérailler au propre et au figuré, je crois.
Turbulence, ce sera au mois de mai, le 13 mai pour être très précis. Là, il a animé il y a quelques jours le bal de C'est pas du luxe à la Fabrica, c'est Denis Plassard. Et Denis Plassard, il sera de retour dans le Vaucluse avec ce spectacle, là aussi avec un titre assez curieux, « On ne danse pas avec des moufles ».
Oui, c'est un spectacle qui a été donné cet été dans le Off. Alors ce spectacle est un titre curieux, mais qui s'explique très simplement finalement. « On ne danse pas avec des moufles ». C'est parce que c'est un duo qui se déroule dans une cage d'ascenseur avec deux personnes au plateau, Denis Plassard, donc danseur, chorégraphe et un peu comédien aussi, puisqu'il y a beaucoup de parties narratives dans les spectacles de Denis Plassard. Et il va relater sa rencontre avec un comédien danseur aussi, en l'espèce, qui est sourd, muet, et donc qui parle avec la langue des signes. Et évidemment, quand on signe, quand on parle en langue des signes, on ne peut pas parler avec des moufles, puisque sinon on ne voit pas les mouvements des mains et des doigts. C'est un spectacle donc, qui a cette particularité d'être à la fois dansé et signé, et tous les deux vont raconter leur rencontre, mais de manière légèrement décalée, puisque bien souvent, évidemment, c'est finalement le propre quasiment de chaque rencontre, on ne les vit pas de la même façon. Et donc Denis la danse et la raconte, et le comédien qui est avec lui, ça me semble tout aussi important de citer Anthony Guillon, oui, Anthony Guillon raconte la rencontre un peu différemment, et il y a ce décalage qui produit un effet comique, hein, en fait, tout simplement, hein, comme souvent.
On le danse pas avec les moufles va être proposé en soirée, mais également dans le cadre des représentations scolaires, parce que comme l'auditorium du Thor, qui est l'autre scène départementale du Vaucluse, il y a aussi tout un travail vis-à-vis de la jeunesse qui est effectué par le centre de Rastoux, avec des spectacles qui peuvent être vus en famille ou en scolaire, mais également des spectacles spécifiquement pensés pour le jeune public.
Oui, absolument. Absolument, nous avons une dizaine de spectacles scolaires avec deux représentations à chaque fois à Rastoux. Alors, ils ont lieu pendant le temps scolaire, pendant les horaires d'école. Il y a des spectacles qui sont proposés également en tout public, mais une programmation spécifiquement dédiée aux scolaires, qu'on ne peut voir qu'aux scolaires, effectivement, qui n'est pas offerte au grand public, avec des spectacles qui ont toujours une résonance avec les programmes scolaires, finalement, puisque l'objectif, c'est pas simplement de présenter un spectacle pour les élèves des écoles, mais c'est aussi de permettre aux enseignants d'inscrire les spectacles dans un parcours d'éducation artistique et culturelle. Donc d'y travailler avant et d'y travailler en aval aussi, en essayant de tirer des liens entre le spectacle qui est proposé et les compétences scolaires sur lesquelles ils travaillent avec leurs élèves. Donc on a un spectacle qui s'appelle « Comme le nez au milieu de la figure » de la Compagnie intérieure de Sylvia Cimino, « Prélude en bleu majeur »,« La solitude des nombres premiers »,« Délivre-moi » de la Compagnie La Robe à l'envers, « On ne parle pas avec des moufles hein, » de Denis Plassard, qu'on aura également au public, « Les musiques minuscules » de Guy Houchelevier. Un spectacle aussi très intéressant. Un spectacle qui s'appelle « À nous deux », la compagnie Okio, qui est également une compagnie vauclusienne, avignonnaise. Le Soléo, nous avons en tout public, nous le rend aussi en scolaire. Et puis un très très beau spectacle qui s'appelle « Urbis et Orbis » de la compagnie Ala Mourak. J'espère que les enseignants se montreront intéressés par ces spectacles et on est évidemment à leur disposition pour les accompagner à élaborer les éventuels programmes d'éducation artistique et culturelle qu'ils aimeraient développer autour de ces propositions.
D'ailleurs, vous avez édité un programme spécifique pour les spectacles jeunesse. Oui. Alors, c'est très amusant parce que une fois qu'on a ouvert les premières pages, c'est une sorte de mode d'emploi dessiné comme pour les enfants, mais c'est destiné aux enseignants si ces enseignants veulent bénéficier d'une séance scolaire à Rastoux.
On leur indiquait chaque année la marche à suivre, mais présentée de manière plus classique, plus formelle, plus administrative. Et là, on a voulu avoir ce qu'on appelle une communication graphique. Moi, je suis assez fier finalement de cette présentation, qui est très visuelle, qui est simple. Elle est destinée aux enseignants, mais elle est aussi destinée à leur permettre de reprendre des éléments de communication graphique pour les montrer à leurs élèves, notamment sur la façon dont il est recommandé de se comporter pendant le spectacle, à quel moment on doit poser des questions, comment on peut manifester ses émotions pendant le spectacle, de sorte que la séance se déroule le mieux possible. Et je voudrais vraiment saluer ce travail qui a été réalisé par Julie Spivak, qui est notre chargée de communication ici, au sein du service, qui l'a conçu et dessiné elle-même, hein, complètement. Plutôt
généralement, on ne lit pas, tandis que là, au contraire, on va jusqu'au bout.
Exactement. Exactement, en général on ne les lit pas et on passe ça très rapidement. Là ça attire l'œil immédiatement, cette communication graphique très parlante si je puis dire.
Un mot de carnet sur Bénédicte Allard, que vous allez accueillir le 1er avril, c'est pas du tout une farce, avec ce spectacle autour de Frida Kahlo.
Là aussi il s'agit d'une création, alors d'une artiste qui n'est pas une artiste vauclusienne mais qui est une artiste régionale. C'est un seul en scène qui a été écrit et qui est interprété par Bénédicte Allard avec une partie musicalisée aussi très intéressante qui a fait l'objet de compositions spécifiques. Un spectacle dans lequel on va découvrir des aspects un petit peu moins connus que les clichés qui sont véhiculés sur Frida Kahlo, hein, puisque c'est quand même une artiste dont l'univers graphique est très connu et qui fait l'objet de reprises d'une sorte d'exploitation commerciale j'ai hésité à employer le terme, mais il faut bien le dire, qui occulte un peu tout un pan de son existence, de ce qu'elle a traversé. C'est finalement un personnage historique hein, au Mexique, qui a vécu avec un peintre mexicain très très connu, qui est un des grands artistes muralistes mexicains. C'est aussi un personnage qui traverse l'histoire du Mexique, en tout cas au siècle dernier, la première partie du XXe siècle. Elle vivait, donc je le disais, avec Diego Rivera. Je crois qu'elle a côtoyé Trotsky pendant son exil au Mexique. Je crois savoir que dans ce spectacle, on va découvrir tous ces aspects de la vie de Frida Kahlo. Le fait aussi qu'elle souffrait, elle a eu un grave accident, elle souffrait d'un handicap qui est finalement un élément, je sais pas, fondateur dans son parcours de vie, dans son rapport à l'art. Et puis, elle avait un engagement qu'on pourrait qualifier de manière un peu rétrospective de féministe, très fort. Bon, c'est ce qui m'a intéressé dans ce spectacle, mais aussi le fait que l'ambition de Bénédicte Allard veut faire en sorte que ce spectacle soit une sorte de tableau vivant de la vie et de l'œuvre de Frida Kahlo.
Frida Kahlo, donc, ce sera pour le 1er avril. Mathieu Deslongchamps aussi, qui sera là le 19 novembre. Apparemment, c'est un musicien.
Alors lui, pour le coup, il n'est pas un artiste régional, c'est un artiste installé en région parisienne maintenant. Là aussi, un talent émergent qui est repéré au plan national, avec pas mal de diffusion radio sur les ondes parisiennes notamment, qui est signé, comme on dit, chez une major, c'est Universal Music, pour son album qui s'appelle Vivo en Panama. Et c'est cet album-là qui m'a particulièrement intéressé, puisque Mathieu Deslongchamps a vécu sa petite enfance au Panama dans des conditions de vie assez extraordinaire. C'était une sorte de Robinson Crusoe, c'est un peu exagéré de dire ça, parce que c'était pas un naufragé, c'était en tout cas un exil volontaire, loin de la vie urbaine, avec ses parents. Il a conçu cet album Vivo en Panama, dans lequel les compositions sont issues finalement des souvenirs qu'il a de sa petite enfance au Panama et du retour qu'il a fait dans ce pays il y a quelque temps. Ce retour au Panama a d'ailleurs fait l'objet d'un documentaire éponyme et que j'espère pouvoir peut-être diffuser avant le spectacle si on a les autorisations requises. Mais donc c'est un artiste qui chante à la fois en français et en espagnol, puisqu'il est hispanophone hein, aussi, bilingue. Il qualifie lui-même sa musique de folk caribéenne, donc il y a des sonorités un peu jazz, un peu latino. Ça fait un peu penser parfois aussi à Manu Chao, hein, l'impression que j'ai eue en écoutant l'album. Quelqu'un de très sympathique, qui va nous faire voyager donc en Amérique centrale, et peu nostalgique aussi. Alors c'est toujours curieux de dire de très jeunes gens qu'ils nous amènent à la nostalgie, mais on a tous un peu, je crois, la nostalgie de notre enfance ou notre petite enfance. Et vraiment, son grand talent, c'est d'une musique, des textes qui sont très doux, très agréables, qui donnent envie de découvrir le monde.
Voilà donc pour Vivre in Panama, ce sera le 19 novembre. Cette saison s'annonce normale. Est-ce qu'on peut dire que il y a aussi dans cette programmation une envie de plaisir, une envie de joie, une envie de retrouvailles avec les spectateurs?
Il me semble, en tout cas, je ne l'ai pas conçu comme ça, la programmation, mais quand on prend un peu de recul et qu'on regarde finalement la couleur dominante de cette programmation, et c'est effectivement ça qui semble prédominer, une envie d'avoir des spectacles qui sont des spectacles de qualité, très ambitieux, mais envie aussi de se faire plaisir, d'avoir des choses qui sont assez optimistes quand même, quoi. Même si il y a des sujets sérieux qui sont traités, il y a un peu de gravité, mais je crois que c'est l'optimisme qui prédomine dans cette saison, qui sera effectivement une saison du retour à la normale, puisque pour l'instant, nous n'avons pas de disposition sanitaire particulière à faire. Alors évidemment, le port du masque est toujours recommandé, les gestes barrières sont recommandés, mais il n'y a pas de restrictions.